Cruel FM. Bonjour.
Hello.
Donc aujourd'hui, on va vous parler de tuer en archéologie. On a choisi ce thème parce que c'est bientôt Halloween et que donc on va vous faire des thèmes glauques pendant tout le mois d'octobre.
On aime bien se faire peur.
Donc on va essayer de voir un peu comment est-ce que le meurtre se vend en archéologie, quelles traces on peut en tirer. Donc déjà, il faut savoir qu'on a des premières traces de violence entre êtres humains sur le site de Cima de los Huesos, donc qui est un site préhistorique. C'est les premières traces que moi, en tout cas, je connais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres avant. Donc dans le crime et dans le meurtre, il faut savoir qu'il y a souvent un facteur social. Donc on tue pour des questions de territoire, de partage de ressources, de fidélité, mais aussi d'intérêt politique ou monétaire. Donc là, tout ce qu'on peut faire en archéologie, ça va englober tout ce qui est le meurtre, la guerre, tout ce qui va conduire à ce qu'une personne tue une autre personne, avec du coup forcément toujours cette dimension sociale derrière. Donc on va essayer de savoir, et ça c'est très difficile d'y avoir accès, la question de volonté qu'il y a derrière. Donc pourquoi est-ce qu'on tue les gens, dans quel contexte, etc. Et donc ce qu'on va retrouver, nous, ça va être pas mal de traces sur les squelettes. Donc on va retrouver des traces de blessures mortelles ou non. Donc on peut avoir des traces de conflits, de quelqu'un qui s'est pris un coup d'épée quelque part, ou une flèche, mais qui n'en est pas mort. On aura quand même les traces sur le squelette. Donc on va avoir dans tout ce qui est impact mortel, on pourra avoir les coups à la tête, les pointes de flèche qu'on peut avoir dans diverses parties du corps, notamment dans les vertèbres. On peut retrouver les traces de pendaison aussi au niveau des vertèbres cervicales, on va avoir des ruptures assez nettes. Pareil pour les décapitations, ça se voit très bien sur les vertèbres cervicales. Avec certaines analyses, il me semble que c'est notamment avec les analyses isotopiques, on peut aussi retrouver tout ce qui est traces de poison, donc on ne va pas voir sur la morphologie du squelette directement. Et après, on peut aussi voir les corps brûlés, mais là aussi, c'est très compliqué parce que la crémation, c'est un traitement qu'on peut apporter à la fois quand on brûle une sorcière ou quand on brûle quelqu'un, parce que la crémation fait partie de nos pratiques mortuaires. Et du coup, là, ça va être très compliqué de savoir si c'est un traitement derrière qui est volontaire, lié à rendre hommage à quelqu'un, ou si c'est parce qu'on voulait tuer cette personne. Donc je vais vous laisser Mathéo, on va présenter deux petits cas de personnes qui ont été tuées, qu'on a retrouvées en archéologie, et je vais vous laisser Mathéo commencer avec Ötzi.
Voilà, donc Ötzi, donc, il est découvert le 19 septembre 1991 dans un glacier de Similaun, c'est dans les Alpes. Alors il est découvert donc, par deux touristes qui sont littéralement en train de se promener, qui s'appellent Erika et Helmut. Alors en fait au départ, il y a eu deux campagnes de fouilles en 91 et en 92, parce qu'en fait le corps était tellement bien conservé que... la police est intervenue parce qu'en fait on pensait que c'était un crime récent, ce qui est assez fou de se dire à quel point le corps pouvait être conservé. Et donc à la suite de ces fouilles, il y a des découvertes importantes qui ont été faites, donc de bols, des fragments d'arc, des haches, des poignards, en fait tout un équipement qui allait avec donc Ötzi. Et en fait, il y a eu 3 ans d'études pour écarter cette théorie de la supercherie, parce que finalement, entre le meurtre récent ou la supercherie, les archéologues et les chercheurs ne savaient trop peu où se placer. Bon, finalement, c'est bien un cas archéologique, donc tout va bien. Donc, qui est Ötzi ? Eh bien, c'est un homme d'à peu près 45 ans, qui mesure 1m60 et qui pèse environ 50 kilos. Finalement, ce sont a priori des standards au néolithique qui ne sont pas... qui sont standards, quoi. Et donc, il est tellement bien conservé qu'on parle d'une momification, donc là, qui est naturelle grâce à la glace. On a eu des traces de ses cheveux, donc qui sont foncés, ondulés, qui arrivent à peu près aux épaules, et peut-être une barbe. Ça, c'est plus difficile à retrouver en archéologie. Et on sait, grâce à des analyses, qu'il avait les yeux bleus. Aussi, on voit par des analyses donc, biologiques, ça veut dire qu'on va regarder les os et puis leur usure. En fait, on voit que ces articulations sont usées, donc davantage peut-être par rapport à un travail agricole ou par rapport à une marche importante. Donc Ötzi était probablement un homme qui devait beaucoup travailler la terre et beaucoup se déplacer. On voit aussi que ses intestins sont parasités, donc il a dû manger des choses qui ne devaient pas être très bonnes pour lui. Et il a des côtes fracturées qui sont en voie de réparation. Donc est-ce qu'il est tombé ? Est-ce qu'il s'est déjà pris un coup ? On ne peut pas savoir. Mais du moins, on sait qu'il se bat ou qu'il a eu un accident qui se voit vraiment. Aussi, on a pu voir que ses poumons étaient très encrassés. Donc bon, ça par contre, c'est vrai que ça reste un petit peu à débattre. Et aussi, ses incisives supérieures sont très usées. Donc on peut en conclure qu'il travaille aussi avec ses dents, donc peut-être pour ronger du bois ou des choses comme ça. Et on voit sur son corps, ce qui était vachement intéressant pour l'époque, c'est qu'il y a toute une série de tatouages, donc sur son poignet gauche, sur ses genoux, enfin il en a partout sur le corps. En fait, il y a des tatouages qui sont davantage à des mesures thérapeutiques. En fait, c'est une tradition qui se développe à partir de 2000 avant en Anatolie. Et en fait, on est davantage sur de l'acupuncture plutôt que du tatouage. Et finalement, on a recensé 61 tatouages sur son corps qui pourraient peut-être être dus à des zones douloureuses ou des zones malades qu'il a voulu guérir. Et je vous laisse avec Aurélie pour le point un petit peu plus intéressant.
Donc en juillet 2021, on a réétudié le corps d'Ötzi, on a fait de nouvelles découvertes. Et donc on s'est rendu compte qu'il avait une pointe de flèche en silex dans son corps, donc au niveau qui aurait pu du coup causer sa mort en perçant une artère. Et donc il est probablement mort de cette blessure-là, mais il a aussi de nombreuses contusions peu avant sa mort, donc notamment une bonne rupture du crâne, donc qui pourrait être due ou à une chute au coup porté par la flèche, soit par une attaque qui lui aurait du coup qui aurait aussi conduit à ce qu'on lui frappe la tête. Donc c'est un cas de violence sociale. Donc ici on n'a pas tout le contexte autour qui nous permet de savoir pourquoi est-ce que Ötzi a été tué, mais on a quand même des éléments qui nous permettent de dire ça. Donc c'est tout ce que je disais tout à l'heure, tout le problème de l'intention et du côté social derrière qui est assez compliqué à voir. Donc c'est un réel bouleversement avec la découverte d'Ötzi, notamment parce qu'on commence à appréhender ces histoires de violence intercommunautaire. Et aussi parce que c'est un des premiers cas d'archéologie glaciaire. Et donc on a pu se rendre compte que aussi dans les glaciers, dans les milieux froids, on pouvait avoir de l'archéologie. Et que justement, ce qu'on pouvait retrouver là-dedans était très très bien conservé. Donc maintenant, je vais vous laisser Mathéo qui va vous parler du massacre de Sandiborg.
Voilà, donc vous avez bien compris comment Ötzi était mort, pauvre monsieur, pourchassé. Enfin bref, en tout cas, c'est une image très... c'est un peu comme si on avait pris une photo et donc on sait vraiment... sensiblement comment il est mort, du moins c'est assez, je trouve ça assez émouvant, bon pas en pleurer évidemment, on va pas faire non plus une crémation pour lui, mais enfin voilà. Moi je vais vous parler donc de Sandiborg, alors c'est un site qui se situe sur l'île d'Öland, dans le sud-est de la Suède, c'est un hameau fortifié de forme ovale d'à peu près 5000 m², avec donc des fortifications qui font à peu près 4 à 5 mètres de haut, aujourd'hui qui ne sont pas conservées. Et c'est constitué d'une cinquantaine d'habitations qui sont fouillées depuis 2011 jusqu'en 2016 par l'université de Lund, donc une université suédoise. Si vous voulez, donc il y a une petite vidéo d'introduction sur YouTube qui s'appelle Ancient Massacre Being Discovered by Archaeologists. Il y a une suite, mais je pense que si vous tapez ces mots-clés, vous devriez tomber sur le massacre de Sandiborg. Alors pourquoi massacre ? En fait, on va considérer le massacre comme un acte intentionnel sur un groupe de personnes qui n'étaient pas prêts à se battre, donc qui étaient sans défense. Avec donc cet acte qui est réalisé par un groupe. Ici, on va parler plutôt de massacre lors des migrations post-romaines. Donc après l'effondrement de l'Empire romain, finalement, il y a davantage de circulation au niveau... il y a davantage de circulation et donc il y a des peuples qui se rencontrent qui n'ont pas forcément les mêmes cultures ni les mêmes... la même façon de vivre, et donc ça arrive à des dimensions qui sont pas très cool pour certains, dont Sandiborg. Et donc pour comprendre pourquoi on pourrait parler de massacre, en fait il y a une étude des corps, de leur position, du contexte et des traumatismes qu'on peut retrouver sur les squelettes, donc sur 26 individus qui ont été donc retrouvés à Sandiborg. Par exemple dans la maison 40, il y en a 9 corps. Dans ces 9 corps, on a un adolescent avec un crâne qui comporte une marque d'un coup violent. On a 3 corps qui sont en position tendue. On ne retrouve pas de mort en position tendue, hormis quand il meurt sur le moment. En fait, c'est une espèce de... C'est la rigidité cadavérique. C'est censé être très, très... c'est pas censé être aussi tendu. Et donc, soit ils ont été frappés puis morts sur le moment, soit ils ont été retrouvés inconscients et sont morts après. Il y en a un aussi qui avait les jambes un peu fléchies, donc ça peut être un indicateur d'une mort lente, ce qui donne des images assez un peu glauques, mais bon, c'est la chronique qui veut ça aussi. Et alors aussi, ce qui est intéressant de cette maison 40, c'est qu'on a un corps qui va être couché et un autre qui va être posé par-dessus, qui va être un peu tombé à la renverse. Donc en fait, on peut s'imaginer qu'une première personne a été frappée, tombée, puis inconsciente, et une deuxième personne a été frappée, tombée, et sur la personne d'avant. Donc il y a vraiment un effet de bouleversement comme ça qui montre un peu l'effroi peut-être du moment. On a aussi des squelettes qui sont partiellement brûlés et qui ont été partiellement désarticulés. En fait, c'est davantage par rapport à peut-être, en fait, peut-être que la maison a été mise à feu et donc, eh ben, ils n'ont pas eu le temps de comment dire, elle a pris feu puis elle a arrêté de prendre feu et donc finalement, ils ont juste cuit plutôt que littéralement brûlé à fond. Pour la maison 40, on est terminé. Je vais juste revenir vite fait sur la maison 52. Donc, je voulais dire une soixantaine de maisons. Et donc, celle-ci, en fait, il y a un homme âgé qui est posé face contre terre, qui est partiellement brûlé. Et donc, on est vraiment sur un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, on est pris sur le vif. Cet homme, certainement, a dû être tombé juste inconscient face à terre. Et donc, toute une partie de son crâne, en fait, est brûlée aussi. Donc, certainement qu'il est tombé sous peut-être des vapes de fumée ou des choses comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Et je vais vous laisser avec Aurélie. Je crois qu'elle a quelques petits trucs à vous dire encore.
Je voulais déjà spécifier qu'on a pris deux exemples, mais il existe une multitude d'exemples, que ce soit sur l'étude des massacres, comme a présenté Mathéo, sur les coups de mort individuels, on va dire, d'une personne qu'on a tuée, que ce soit aussi sur tout ce qui est études liées à la guerre, liées aux criminels aussi, aux sépultures de criminels, etc. Et en tout cas, si ce sujet-là vous intéresse, sur le site de l'INRAP, il y a une vidéo d'un colloque intitulée « Les archéologues reviennent sur la scène de crime ». Donc c'est une vision à la fois juridique et historique du crime et de tout ce qu'on peut faire en archéo sur ce sujet. Donc en fait, les vidéos sont découpées en différentes thématiques avec chaque personne, chaque intervenant. Et sur chaque page, il y a une petite bibliographie qui peut vous amener à explorer un peu plus ce sujet-là. Du coup, pour notre petit fun fact qui aura aussi un rapport avec Halloween, j'ai décidé de vous parler de sépultures dites de vampires. Donc il y a pas mal de sépultures en Europe de l'Est et même en Europe occidentale où on retrouve en fait des corps qui ont subi des traitements particuliers, donc des têtes coupées qu'on place entre les jambes, des puits en bois ou en fer au niveau du cœur ou un peu ailleurs sur le corps, des personnes avec des briques dans la bouche ou des placements de corps assez particuliers et donc qui, quand on connaît un peu le folklore local et les idées notamment par rapport aux vampires, pourraient être considérées comme des sépultures de vampires. Alors, les morts à l'intérieur ne sont absolument pas des vampires, mais ça témoigne en fait des superstitions locales et donc qui suivent après les personnes jusque dans leur mort. Et ça arrive aussi pas mal sur les sépultures d'enfants ou qui relèvent pas mal de ces traitements-là. Et je sais qu'il y a d'autres traitements, par exemple au niveau du rire sardonique. Donc en fait, c'est quand le corps se décompose, la mandibule va avoir tendance à tomber et ça va donner l'impression que le squelette rit. Et en fait, il y a une superstition qui dit que si ça arrive, cette personne-là a été possédée par le diable ou va rejoindre le diable en enfer. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des espèces de cales sous la mandibule pour pas que la mandibule tombe et que donc cette personne-là ne rejoigne pas le diable. Et on a pareil avec des bruits de décomposition. Alors, quand on se décompose, c'est très élégant avant de manger. Mais quand on se décompose, on va faire des bruits. Et en fait, ça peut imiter des personnes qui parlent ou qui rigolent. Et donc là, pareil, on va placer souvent des cailloux dans la bouche des gens, etc. Parce que pour pas, en fait, répondre la parole qui pourrait être dite du diable. Voilà, pour ce petit fun fact.
Le porridge macabre. Mais oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aurélie. C'était super. Moi, j'ai adoré travailler sur la mort. C'est vrai que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Moi, je suis un petit peu étranger, mais finalement, je trouve qu'on trouve toujours notre compte dans Truelle FM.
Oui, pour tout le monde.